vas tu? Ça c'est étonnant. Hein.
En général, on dit que Jésus il en a rien à faire, donc on dira. Voilà, on s'en préoccupe avec lui. Il se pose la question de qu'est-ce que les gens pensent de lui. Ça les ressent pas pourtant. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Ça vous intéresse vous les gens? Vous en avez rien à faire au collège ou à l'école. Ça vous intéresse pas. C'est pas une pression dingue. Vous les parents, vous... ça vous intéresse ce qu'on pense de vous? Pourquoi Jésus le fait? Bizarre. Pourquoi lui il a souci de sa réputation? Bon, ça se monnaie pas encore à l'époque. Maintenant c'est le cas sur les réseaux sociaux, il paraît que ça peut marcher. On a une bonne réputation de pub sur notre. Ouais, je vais arrêter là parce que je vais passer pour une vieille. Parce que je vais forcément pas utiliser le bon mot. Donc voilà. Pourtant Jésus il n'a jamais changé son comportement. Et même quand ça lui apportait des ennuis, des graves, des terribles ennuis. Mais aujourd'hui, il se pose cette question. Qu'est-ce que je suis pour les gens? C'est la question de sa reconnaissance qui est posée. Est-ce qu'il est compris pour ce qu'il est? On peut comprendre que Jésus, comme tout homme, puisse à un moment donné être pris de doute sur son ministère, sur la portée de ses actes, sur la réception de ses paroles. Bref, il puisse se poser la question de sa reconnaissance. Alors pourquoi, ensuite, donne-t-il la consigne de ne rien dire de lui aux gens? C'est complètement contradictoire, en première vue. En méditant sur cette contradiction, un des versets de l'évangile de Jean que nous lisions dans les textes de dimanche au mois d'août m'est revenu. Parce que j'ai quand même une mémoire, même si avec vous ça ne marche pas toujours. Ça m'est revenu en mémoire ce verset. « Nul ne vient à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Jean 6, 65. Nul ne vient à moi si cela ne lui est donné par le Père. Alors pourquoi, encore une fois, cette consigne de ne rien dire? Puisque venir à Jésus, c'est-à-dire comprendre ses paroles, comprendre sa présence et en tirer les conséquences pour sa vie, tout ça, c'est un don de Dieu. Alors pourquoi les disciples devraient garder pour eux ce qu'ils pensent de Jésus? Ne devraient-ils pas, au contraire, en parler à un maximum de personnes? Afin qu'elle prie le Père de leur accorder de suivre Jésus. Eh bien, l'été, ça sert à ça aussi. J'ai pu lire des livres. Et puis, il m'est revenu un passage d'un livre de Michel Maxime Heger qui s'appelle « La terre comme soi-même ». Et dans ce livre, un des passages nous explique que même si on a la connaissance d'une réalité, c'est-à-dire même si on sait quelque chose, ça ne fait pas forcément partie de notre système de pensée. On pourrait dire la connaissance précède le comportement. Alors on sait que quelque chose est bien, on n'arrive pas à le faire. Ou on sait que quelque chose est mal, mais on n'arrive pas à intégrer qu'il ne faut pas le faire. Ouais, ça marche pour plein de choses, hein, plein de choses. Et en général on finit par dire c'est addictif si on n'arrive pas à s'en libérer. Ou au contraire, ça me saoule, si on n'arrive pas à le faire. Dans les deux cas, on sait, la connaissance précède le comportement. Voilà qui permet de mieux comprendre les versets suivants. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et Jésus, se retournant, regardant ses disciples, réprimanda Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as des pensées que humaines. » Cette scène nous parle de ce qui se joue très couramment dans notre vie, sans que nous en soyons toujours très conscients, c'est-à-dire le partage et l'acceptation de connaissances. Ces versets nous racontent que pour suivre Christ, il s'agit de bien plus que d'une simple connaissance de qui il est. Il faut aussi changer son système de pensée, sa manière de voir et de comprendre le monde. Notre société a été confrontée, et est confrontée depuis quelques années, et maintenant récemment aussi, par ce genre d'événements qui nous force à comprendre que Il y a un système de pensée, une manière de voir et de comprendre le monde qu'il faut changer. Et Pierre, pourtant, c'est le seul à confesser tuer le Christ. Il ne pense pas que ses compagnons soient capables ou prêts à comprendre cette vérité. Comme s'il était incapable lui-même de faire confiance à Dieu. Il juge de la foi de ses compagnons selon ses propres critères, des critères humains, selon les paroles de Jésus. Il est donc nécessaire, nous dit l'Évangile aujourd'hui, pour chacun, chacune d'entre nous, de faire le point sur ses propres valeurs, de faire le point sur son propre système de pensée. Qu'il renonce à lui-même, voilà, on peut le comprendre comme ça, c'est-à-dire qu'il renonce à tout ce qu'il pense le définir pour devenir comme une page blanche. Qu'il renonce à tout le système de pensée qu'il a mis en place et qui semble être ce à quoi il tient le plus. Ce n'est pas une manière de vivre qui est très facile parce qu'il y a une certaine solitude. Les versets qui le suivent le soulignent d'ailleurs. Jésus parle de génération adultère et pécheresse. Et c'est ainsi qu'on peut entendre l'idée de se charger de sa croix. Personne pour la porter à notre place, cette croix. Non, il y a cette dimension à accepter, une certaine renonciation à la déresponsabilisation, le courage de regarder en face sa vie avec ses échecs, ses renonciations, ses déceptions, qui n'ont pas d'autre responsable que soi-même. Faire de sa vie une page blanche, accepter une certaine solitude, voilà qui va à l'encontre de nos attentes, de reconnaissance et de popularité, qui sont les modes d'expression de notre soif d'amour. Mais l'Évangile ne nous laisse pas seuls sur ce chemin. Il nous donne des forces pour nous mettre à la suite de Jésus. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? S'agit-il d'une simple opposition entre le spirituel, l'âme, et le monde, le charnel? Au contraire, Jésus souligne par cette question la nécessité de ne pas séparer les deux univers comme nous le faisons régulièrement, comme si nous devions accepter au nom de notre renommée dans le monde de perdre notre âme, c'est-à-dire de l'oublier. Jésus propose clairement, en le suivant, de réconcilier les deux dimensions de notre être, l'être social et l'être spirituel. Il faut pour cela, c'est vrai, un véritable changement de lunettes pour porter sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes un nouveau regard. Renoncer à soi-même, renoncer à son quant à soi pour ne plus rester enfermé dans une conception du monde dualiste, partager entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, renoncer à soi-même et ouvrir son âme à la dimension du monde, dimension de la vie. Albert Schweitzer disait « Je suis vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre ». Voilà son regard sur le monde, après avoir brusquement changé de lunettes en arrivant. Cette prise de conscience est permise par une nouvelle manière de penser sa place dans le monde, de penser sa place dans la création de Dieu. De l'univers, l'homme sait seulement que tout ce qui existe et l'environne est une manifestation de la volonté de vie, pareille à la sienne. Voilà ce qu'explique encore Albert Schweitzer. Voilà donc le renoncement que nous propose l'Évangile. Un décentrement. Nous ne sommes plus, vous n'êtes pas, je ne suis pas, le centre. Le centre du monde. Le centre de mon monde. Il s'agit de ne plus considérer toute la création à partir seulement de notre moi. Pour rencontrer à travers tous les vivants, tous les éléments de la création, la force de vie présente en eux. Une force de vie qui les traverse, comme elle nous traverse. En tant qu'humains, en tant que chrétiens, nous qui voulons suivre le Christ, ce qui nous est proposé, c'est de perdre notre vie dans l'immensité de la toile de vie, autrement dit dans l'œuvre de Dieu. C'est ainsi en acceptant de perdre notre vie, de la mêler intimement aux autres vies, que nous la sauvons du repli sur elle-même, que nous lui donnons un sens, celui qui va vers les autres, vers toute la création. Actuellement, une partie de l'humanité doit faire cet effort de décentrement, doit changer sa conception du monde. Nous sommes de cette civilisation qui a porté à tel point à l'exploitation des ressources de la création qu'elle a réussi à mettre en danger sa propre vie. Alors est-ce qu'à trop vouloir sauver notre vie, à trop nous mettre au centre de nos préoccupations, à trop nous considérer comme évidemment prioritaires pour l'assouvissement de nos besoins, puis de nos désirs. Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre notre vie, précisément? Et là, un nouveau sens à cette expression nous apparaît. Perdre sa vie en vivant comme d'éternels enfants. C'est-à-dire jamais majeur, jamais mature, jamais responsable de nos actes. Ça va bien parce que les parents de substitution sont nombreux. Cela va du voisinage à l'État, en passant par l'employeur, la tradition, la société, etc. Eh bien, l'Évangile nous ouvre un chemin différent. Un chemin qui nous pousse à détacher notre regard de notre vie pour la porter sur la vie. La lettre de Jacques nous en donne un exemple concret dans notre relation aux autres humains, en nous expliquant que notre foi doit être porteuse de vie, que le sens de notre foi est la vie, pas seulement notre vie. Nous avons encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. Je crois que l'apprentissage n'est jamais fini. La seule possibilité de donner un sens à son existence, c'est d'élever sa relation avec le monde à la hauteur d'une relation spirituelle. Voilà ce qu'a encore écrit Albert Schweitzer. Voilà la croissance que nous pouvons désirer pour notre civilisation, pour notre pays, pour notre Église. Une croissance spirituelle qui nous permettra de changer de lunettes et qui sait peut-être même de nous en passer, quand enfin nos yeux se seront adaptés à l'immensité de la vie qui nous entoure. Amen.
Amen.